Radio Canu. Comment faut-il que je vous le dise? C'est avec vous et nos chères voix en chair et en os. Delphine. Salut. Greg.
Ouais, ouais.
Anita, birthday, verset.
Salut.
Et moi. Et c'est parti. C'est parti.
C'est parti pour un tour.
Comment faut-il que je vous le dise?
L'émission la plus improvisée.
Le vêtement des forçats est rayé rose et blanc. Si commandé par mon cœur, l'univers où je me complais, je l'ai lu. Ai-je le pouvoir au moins d'y découvrir les nombreux sens que je veux? Vers ce qu'on nomme le mal, par amour j'ai poursuivi une aventure qui me conduisit en prison. S'ils ne sont pas toujours beaux, les hommes voués au mal possèdent les vertus viriles. De même, ou par le choix fait pour eux d'un accident, ils s'enfoncent avec lucidité et sans plainte dans un élément réprobateur, ignominieux, pareil à celui où, s'il est profond, l'amour précipite les êtres. Un tel langage ne s'écrit pas. On le chuchote là, la nuit, à l'oreille, d'une voix rauque, à l'aube on l'oublie. Niant les vertus de votre monde, les criminels acceptent d'organiser un univers interdit. Ils acceptent d'y vivre. L'air y est nauséabond. Ils savent le respirer. Je ne veux pas dissimuler les raisons qui me firent voleur, la plus simple étant la nécessité de manger. Toutefois, dans mon choix, n'entrèrent jamais la révolte, l'amertume, la colère ou quelques sentiments pareils. Avec un soin maniaque, un soin jaloux, je préparais mon aventure comme on dispose une couche, une chambre pour l'amour, et j'ai bandé pour l'amour, et j'ai bandé pour le crime.
Y'a bien du pain blanc, mais c'est pour le patron. Moi, je bois de la pisse de vache. Y'a bien du vin blanc, mais c'est pour le patron.
Moi, je.
Poulefnuk, ce n'est ite le crône, poulefnuk.
Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi.
Poulefnuk, lire sa machine, dit l'usinson, poulefnuk.
Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi.
Nenyi, moudiyi, sornuk, hak moudarloir, fes madavror.
Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera.
Nenyi, moudiyi, deljusonuk, hak moudarir, satsrazot.
Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger.
Nenyi, moudiyi, damnonuk, hak moudar, caché l'aspirine.
Ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine.
Oulafnuk, oulafnuk, oulafnuk.
Oulafnuk, naniying. Oulafnuk,
naniying.
Oulafnuk, naniying. Oulafnuk,
naniying. Oulafnuk, naniying.
Oulafnuk, naniying. Oulafnuk, naniying. Oulafnuk,
naniying.
Oulafnuk,
naniying. Oulafnuk, naniying.
Oulafnuk,
naniying.
Oulafnuk, naniying.
Oulafnuk, naniying. Oulafnuk, naniying. ويرنين وريين لخوش يشوون
ولذنك نانيين ولذنك نانيين
قوذر
ولذنك نانيين
قوذر
ولذنك نانيين
سكواس مثنينو يسمان
لذنك نانيين سفرسني يالن حكانيين عين زران ثقران
Ils m'ont crevé les yeux et ils m'ont raconté le film après
غاني ذي القف زناني كجد النية
Ils m'ont mis dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après غفزني ثقران ناني حمد الحيش
Ils m'ont écrasé et ils m'ont dit t'es une sale bête après
ولثنك ولثنك وين حملاغ
ولثنك كاسين حملاغ ثورة ذاينا ثحفيفي
Moi aussi, mon amour C'est fini, mon amour
أقلانا غاسين حملاغ
Nous voici, mon amour
أقلانا غاثحفيفي
أقلانا غا وين حملاغ
أقلانا غا وين حملاغ
Moi aussi, moi aussi, moi aussi C'est fini, nous ولذنك, voici, mon ولذنك. Amour
Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignillon. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calmes que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent. Je délassais les monstres et j'entendais... Monté de l'autre côté du désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane, que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes, et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. Au bout du petit matin, bourgeonnant, dense, frêle, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool. Échoué dans la boue de cette baie, dans la poussière de cette ville sinistrement échouée. Au bout du petit matin, l'extrême. Trompeuse désolée et char sur la blessure des eaux. Les martyrs qui ne témoignent pas. Les fleurs du sang qui se fanent et s'éparpillent dans les vents inutiles comme des cris de perroquets babillards. Une vieille vie menteusement souriante. Ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée. Une vieille misère pourrissant sous le soleil, silencieusement. Un vieux silence crevant de pustules tièdes. L'affreuse inanité de notre raison d'être. Au bout du petit matin, sur cette plus fragile épaisseur de terre que dépasse de façon humiliante son grandiose avenir, les volcans éclateront. L'eau nue emportera les taches mûres du soleil et il ne restera plus qu'un bouillonnement tiède picoré d'oiseaux marins. La plage des songes et l'insensé réveil. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante, indocile à son tort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite en rupture de la faune et de la flore. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier, parce qu'on le sent sien lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelque refuge profond d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette.
Nasceu boêmio estrela que canta brilhar Lina mar boêmio areia que canta molhar Espanhol desse mundo fora Sorrache mar terra povo cheio de amor Tem morna tem coladeira terra sal cheio de amor Tem batu tem funaná Espanhol nesse mundo fora Sol, rote e mar Terra, povo, cheio de amor Tem morna, tem coladeira Terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Traversée en milieu hostile, mais la note chave quand même. Ça débite sur les côtés. Et cette petite musique qui fait s'agiter les tempes, régler le pas et le vent qui pousse. Elle avance, confiance. Des visages la traversent. Elle croit en reconnaître, c'est impossible, Pierre anonyme, pas là. Son, Larsen, son. Ça va vite, elle le veut. Confiante, elle, confiante. Il y a des intersections. La ligne est pourtant la même, des pointillés d'errance contrôlés. Pensez à l'or des lots pour empêcher ça. Les points A et B, les circonvolutions au milieu. Pas sûr du comment et du pourquoi atteindre cette putain de berge.
car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Le poète est ce magicien qui, cuivre, sait s'inventer clairon. Par le mouvement de la création, il quitte le présent des certitudes pour se propulser dans un au-delà incessant. L'image est belle, la phrase est forte, l'histoire la retiendra. Pas tant la métaphore du cuivre et du clairon, plutôt oubliée depuis. Mais ces quelques mots, désormais sortis de leur contexte et qui sonnent à tout vent comme un secret révélé. Je est un autre. D'autres petites phrases de ce genre ont connu une gloire semblable. Dans un livre précédent sur la cuisine et les repas, j'avais cité le cas de la formule de Claude Lévi-Strauss devenue célèbre. Pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. L'enquête révèle que l'auteur ne l'avait en vérité pas exactement écrite en ces termes et qu'elle occupait une place marginale dans ses propos. Qu'importe. C'est dorénavant ainsi qu'elle est connue et citée à l'envi. Car elle parle à l'époque. Elle dit quelque chose de juste et de fort, dépassant ses contenus les plus explicites. Ceux qui l'emploient se sentent cuivre devenir clairon. Par le seul fait de la prononcer, porteur d'une vérité qui se cherche. L'expression s'inscrit désormais dans un patrimoine commun de questionnement qui n'a plus grand-chose à voir avec son énoncé originel. Il en va de même pour la phrase de Rimbaud, qui nous intéresse ici. « Je est un autre ». Les commentaires ne parviennent pas à l'épuiser. La formule reste encore aujourd'hui une continuelle promesse de dévoilement, riche d'interprétations multiples. Oui, l'époque le sent bien, quoique de façon confuse. Je n'ai pas ce bloc homogène, commandé par une pensée unique et stable, si rassurant pour nous tous et si commode pour les administrations. Je se diffracte au contraire en mille divergences intimes dont il est bien difficile de saisir le mouvement. Chacun d'entre nous a sa petite idée de ce qu'est un individu et de comment il fonctionne. Il suffit en effet, suppose-t-on, de se représenter soi-même. Nous avons, cela nous semble évident, une vision du monde, des projets d'existence, une pensée qui dirige nos comportements. Nous sommes même, croyons-nous, ce que la science économique appelle des sujets rationnels. Par ailleurs, l'histoire du dernier siècle a été marquée par l'irrésistible montée en puissance de l'autonomie individuelle. Non seulement nous avons une pensée bien établie, non seulement nous élaborons nos choix de façon rationnelle, mais de plus, nous avons su nous arracher à l'emprise de la tradition et des institutions pour imposer dans tous les domaines nos avis personnels. Cette représentation dominante n'est pas totalement fausse. Il existe bien, par exemple, un grain de rationalité dans nos comportements. Un grain seulement. Et ce grain suffit pour valider les théories économiques. Au risque toutefois de nous faire prendre ce seul petit grain pour la réalité de la personne tout entière. La gamme des choix de vie, autre exemple, ne cesse de s'élargir. Nous réfléchissons et arbitrons à propos de tout. Du contenu de notre assiette à l'évaluation critique des candidats conjoints. Et cet élargissement nous convainc que nous sommes de plus en plus pleinement autonomes. La représentation de l'individu rationnel et autonome est vraie en surface, dans ce qui est le plus immédiatement perceptible. Et surtout, elle est conforme au modèle qui structure le développement actuel de nos sociétés. Elle est vraie en tendance. Mais cette vérité programmatique crée une illusion, que l'individu soit réellement ainsi, dans l'ordinaire de sa vie présente. Or, il n'en est rien. Ce pauvre individu est infiniment moins autonome qu'il ne l'imagine, infiniment moins rationnel, infiniment moins unifié. Ainsi, l'autonomie ne fonctionne-t-elle guère selon les principes clairs et souverains qui nous gonflent d'importance ? Nous ne sommes que très relativement les maîtres de notre petit monde. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre la longue histoire de ce qui nous a amenés là, contre les récits historiques qui montrent des individus héroïques s'arrachant aux pesanteurs sociales et ouvrant la voie à l'autogestion personnelle. Une analyse plus soucieuse des arrière-plans indique que la figure du sujet libre que nous connaissons aujourd'hui a été socialement fabriquée à partir de cet idéal moral. Les gestes de révolte individuelle ont certes bien existé. Les héros restent des héros. Mais ils étaient d'abord les produits d'une histoire. Chacun est censé désormais pouvoir s'inventer librement et se définir lui-même. Il en résulte un questionnement nouveau, sans fin, sur l'identité. Comment, en effet, répondre à la question de savoir qui je suis et ce qui donne sens à ma vie, si, à tout instant, je me questionne et remets en cause les évidences censées fonder mon existence? L'interrogation identitaire submerge la société, jusqu'à prendre, dans les cas extrêmes, des formes obsessionnelles, violentes, totalitaires. L'identité d'une personne n'est pas le simple développement du soi-disant résumé figurant sur les papiers. La première illusion, la première confusion, engendrée par les identités de papier, est de porter à croire qu'il serait possible de faire le tour d'une personne en quelques critères. Mais comment cela pourrait-il être alors que la personne elle-même ne sait pas et sait de moins en moins qui elle est exactement, qu'elle interroge sur ses valeurs fondant ses choix? La seconde illusion, la seconde confusion, qui nous intéresse directement ici, est de laisser penser que l'identité pourrait être une réalité stable et unifiée, dont on parle au singulier et que l'on pourrait révéler de manière certaine aussi simplement que l'on présente ses papiers. Alors qu'elle n'est que mouvement et contraste, confrontation, conflit intérieur. Le soi n'est pas une chose que l'on posséderait en soi. Il est un processus en travail, fondé sur la représentation de soi. L'illusion n'est pas alimentée seulement par l'amalgame avec l'identification administrative. Elle est aussi, et de façon plus importante encore, par le travail permanent du sujet pour s'unifier. C'est justement parce qu'il est profondément fragile, fragmenté, qu'il doit sans cesse faire effort pour construire son unité. Qu'importe si celle-ci est provisoire et changeante. Ce qui compte est de recoller les morceaux du sens éclaté, à chaque instant, effort si constant qu'il finit par faire sens en lui-même. Nous avons l'impression de faire bloc, puisque nous n'arrêtons pas de travailler à notre unité. Nous oublions un peu vite que nous sommes contraints d'agir ainsi parce que la division interne fait rage, que l'unification continuelle est au contraire la preuve de l'infinie diversité intérieure. Nous oublions aussi que l'unification en question tient plutôt du bricolage approximatif, l'important étant de se sentir unifié, de se sentir porté par une totalité signifiante, davantage que de fabriquer cette unité avec rigueur et précision.
We blow through the square, we don't even care. Dirt roads and beer. feet. Let's go to the top, just you and me. As the sun hides, the fog takes over. A golden African river. Don't wait for me, summer. Through space and time, here and there at the same time. Hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad. Look deeper, go higher when you climb. But stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying. Always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't block the sun. My seat, can't you tell? This is my time, don't waste it up. This is my land, not for sale.
Je suis née à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venue au monde au 22 de la rue d'Azas. Et je me rendis rue d'Azas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevée dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans les Landes des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seule au monde et je ne suis pas sûre de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France, nourri des eaux en poudre. Par cette plante épineuse des Cévennes, je porte le nom, le monde végétal mais familier. Je peux sans pitié considérer toutes les fleurs, elles sont de ma famille. Et si par elle je rejoins au domaine inférieur, je m'éloigne encore des hommes. Et j'attends que le ciel me tombe sur le coin de la gueule. La sainteté, c'est de se faire servir la douleur. C'est forcer le diable à être Dieu. C'est obtenir la reconnaissance du mal. Depuis 5 ans, j'écris des livres. Je peux dire que je l'ai fait avec plaisir, mais j'ai fini. Par l'écriture, j'ai obtenu ce que je cherchais, ce qui, m'étant un enseignement, me guidera. Ce n'est pas ce que j'ai vécu, mais le ton sur lequel je le rapporte. Non les anecdotes, mais l'œuvre d'art. Non ma vie, mais son interprétation. C'est ce que m'offre le langage pour l'évoquer, pour parler d'elle, la traduire. Réussir ma légende. Je sais ce que je veux et je sais où je vais. Créer n'est pas un jeu quelque peu frivole. Le créateur s'est engagé dans une aventure effrayante, qui est d'assumer soi-même jusqu'au bout les périls risqués par ses créatures. On ne peut supposer une création n'ayant l'amour à l'origine. Comment mettre en face de soi, aussi fort que soi, ce qu'on devra mépriser ou haïr ?
Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pas de mots. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres ? que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir que le temps qui passe. Et le temps, ça ne se voit pas.
Du balcon de l'hôtel. Du balcon de l'hôtel, je regarde Port-au-Prince, au bord de l'explosion, le long de cette mer turquoise. Au loin, l'île de la Gonâve, comme un lézard au soleil. Cet oiseau qui traverse mon champ de vision si brièvement, 8 secondes à peine, le voilà qui revient. Est-ce un autre ? Comme je m'en fous. Le jeune homme qui balaye avec tant d'énergie la cour de l'hôtel, si différent du vieux d'hier matin, semble avoir la tête ailleurs. Balayer. Parce qu'elle permet de rêver, est une activité subversive. Ce matin, ce n'est pas Césaire que j'ai envie de lire, mais bien ce Lanza del Vasto, qui parvient à se satisfaire d'un verre d'eau fraîche. J'ai besoin d'un homme serein, non pas d'un bougre en colère. Je ne veux plus penser, simplement voir, entendre et sentir. Et tout noter avant de perdre la tête. Intoxiqué par cette explosion de couleurs, d'odeurs et de saveurs tropicales. Cela, ça fait si longtemps que je ne fais pas partie d'un tel paysage. Dans ce bidonville de nom de jalousie, à cause de la proximité des villas luxueuses, ce qui nous dit quelque chose de l'humour qui y règne, cette fillette s'est réveillée la première pour aller chercher l'eau. Je suis avec une longue vue prêtée par la propriétaire de l'hôtel. Elle grimpe la montagne comme une petite chèvre avec un bidon en plastique sur la tête et un autre dans la main droite. Je l'ai perdue de vue tandis que j'examinais le quartier au réveil. La revoilà, la robe mouillée, plaquée sur un jeune corps maigre. Le moustachu en cravate qui prend son café sur la galerie la suit du regard. Observons la scène de près. Gros plan sur le visage du moustachu. Concentration massive de sa part sur la danse des hanches de la jeune fille. Le moindre mouvement de ce corps si souple est absorbé par de petits yeux avides. Léger frémissement du nez. Le félin bondit, griffe fichée dans la nuque, le dos arqué de la fillette, pas de cri. Tout s'est passé dans sa tête entre 2 gorgées de café. Je m'assois sur la véranda en déposant doucement la longue vue au pied de la chaise, réchauffée par le soleil. Si présent dès 6 heures du matin, je ne tarde pas à glisser dans un sommeil tour à tour léger et profond, presque suffoqué par cette odeur de sang chaud qui me monte au nez. Le boucher d'épaisse sous ma fenêtre, la machette siffle, cet arc rouge dans l'air, la gorge tranchée d'un jeune cabri. L'animal semble sourire dans la douleur. Ses yeux d'un vert tendre me trouvent. Qu'y a-t-il par-delà cette douleur ? Sa nuque se casse, comme un champ de canne courbé par la brise. Derrière moi, la propriétaire qui sourit des yeux. Sa longue expérience de la douleur devrait être enseignée dans une époque où l'on apprend tout sauf à faire face à la tempête de la vie. Je descends dans la rue pour un bain dans ce fleuve humain où plus d'un se noie chaque jour, cette foule ruminant la chair fraîche et naïve de tous ces exilés qui espèrent retrouver dans cette énergie les années d'absence. Je ne suis ni le premier ni le dernier. Sur les trottoirs, dans les parcs, dans la rue même, tout le monde achète, tout le monde vend. On tente de berner la misère par une incessante agitation. Je balaye tout du regard, paysans écoutant leurs transistors, voyous à moto, fillettes faisant le tapin près de l'hôtel, musique de mouche au-dessus d'une boue verte. 2 fonctionnaires traversent lentement le parc. Zoom sur cette jeune fille riant sur le trottoir d'en face, avec un cellulaire vissé à l'oreille. Une voiture s'arrête près d'elle, klaxon strident. La main semble bloquée au-dessus. La fille fait semblant de ne rien entendre. La voiture continue sa route. Rire des marchands de fruits qui ont assisté à la scène. Couleurs primaires, dessins naïfs, vibrations enfantines. Aucun espace vide. Tout est plein à ras-bord. La première larme fera déborder ce fleuve de douleur dans lequel on se noie en riant. Tête fière, ventre creux. L'élégance morale de cette jeune fille qui repasse devant moi pour la 3e fois en 5 minutes, sans un regard dans ma direction, à l'affût du moindre geste de ma part. Avez-vous déjà pensé à une ville de plus de 2 millions d'habitants dont la moitié crève littéralement de faim ? La chair humaine est aussi de la viande. Pendant combien de temps un tabou pourra-t-il tenir face à une nécessité ? Désir de la chair, vision psychédélique, regard de biais. On voudrait dévorer son voisin à midi comme une de ces mangues à la peau si douce. Un homme chuchote quelque chose à l'oreille d'un ami qui sourit doucement. Un vent léger soulève la robe de cette femme qui file en riant se cacher derrière un mur. Une petite pluie si fine que je ne m'étais pas rendu compte qu'il pleuvait. La misère fait la sieste. Ce lézard indécis, après mûre réflexion, saute de sa branche. Un éclair d'un vert tendre gifle l'espace. Je suis dans cette ville où il ne se passe, pour une fois, rien à part le simple plaisir d'être vivant, sous un soleil éclatant. Au coin des rues Villat et Grégoire, des centaines de tableaux recouverts de poussière, accrochés sur les murs, le long de la rue. On les croirait peints par un seul et même artiste qui signe sous des noms d'emprunt différents. La peinture est aussi populaire dans ce quartier que le football. Les mêmes paysages luxuriants reviennent pour dire que l'artiste ne peint pas le pays réel, mais bien le pays rêvé. J'ai demandé à ce peintre aux pieds nus pourquoi peint-il toujours ces arbres croulants sous les fruits lourds et juteux alors que tout est désolation autour de lui. Et justement, me fait-il, avec un triste sourire, qui veut accrocher dans son salon ce qu'il peut voir par la fenêtre ?
Ah ben oui, hein, parce que Monsieur Guillermo, quand il s'est écrasé contre un rocher, ça a été une perte. Oh, Monsieur Albert, c'était une tête. 2 ans après l'inauguration de la nouvelle usine, il sortait le premier prototype de moulin électrique. Alors Anne, par contre, elle pratique la culture biologique sans engrais. C'est pour ça, je ne sais pas si j'ose vous en offrir, Monsieur Jourdouard. Parce que c'est pas une fille qui a de l'ambition. Ah non, alors, ses nappes, ses chats, le sauvetage du Parthénon. Alors, elle a une armoire, mais pleine de nappes brodées de différents pays. Il avait bu plusieurs coupes de champagne. Il allait de bureau en bureau, sa coupe de champagne à la main, jusqu'à ce qu'il se campe devant le poster de Johnny Hallyday, qui fait bien 1m50. Et Odile a dit qu'elle n'aimait pas Johnny. Alors Monsieur Pierre s'est tourné, il a dit que lui non plus, il n'aimait pas Johnny. Il a dit « ce ne sont plus des bureaux, ce sont des sous qu'on se croirait à la Casbah, faudra me nettoyer ça ». Monique a dit que c'était son endroit d'aimer qui elle voulait. Et que c'était son poste de travail, elle aussi. Odile, qui aurait me fait de se taire, mais elle avait trop bu, a dit que regarder Johnny lui donnait la migraine. Et elle et Monique travaillent sur le même fichier client. Impossible de séparer leur poste de travail. Toute image, le mot « toute » est souligné. Toute image, de quelque nature que ce soit, dans les bureaux, cependant à la discrétion des chefs de service, il pourrait être toléré une image, au maximum, par membre du personnel, d'un format qui ne saurait excéder 24 par 36. Signé Charles Bataille, directeur administratif et financier. Madame Serge a jeté son poids dans la balance. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez jusqu'à midi pour faire place nette. Monsieur Pierre risque de passer à l'heure du déjeuner. Il a fait savoir que ça ne devrait pas traîner. Et oh, c'est quoi ce papier-là ?
Radio Canu 102.2.
Comment faut-il que je vous le dise ?
Je voudrais que l'on se comprenne.
Les matinées étaient devenues glaciales, mais les femmes poussaient les enfants dehors dès qu'ils étaient habillés. Ils devenaient fous s'ils restaient enfermés, disait Missia. C'était assez cruel de les donner au vent tous les jours, il fallait à cela au moins une raison. Dans le froid vif, Michael et Sandro couraient et se battaient. Plus nombreuses, les filles faisaient cercle pour chercher à jouer. Elles n'avaient ni corde à sauter, ni élastique, ni poupée et poussette, et quand le matin était trop piquant, elles pleurnichaient. De temps en temps, elles s'essuyaient le nez d'un revers de bras. Chaque mercredi, vers 11h, Esther les installait l'un après l'autre dans la voiture. Elle laissait tourner le moteur et mettait le chauffage au plus fort. « Tu vas bousiller ta batterie, » disait Sandro. « Tu crois ?» s'inquiétait Esther. Il hochait la tête. « Je coupe ?» demandait-elle. « Non !» hurlaient les enfants. Ils riaient, c'était toujours le même plaisir. La petite soufflerie ronflait. Esther prenait son livre, il ne bougeait plus, et hormis quelques reniflements, le silence était total. Elle ignorait qui, de la chaleur ou de l'histoire, les apaisait d'un seul coup, sans qu'ils ne demandent rien. « Ils ne sont pas difficiles, » se disait-elle. Jamais ils ne réclamaient, jamais ils n'avaient soif ou faim, comme d'autres enfants qui ont sans arrêt des besoins de quelque chose. Elle lisait dans ce calme. On entendait juste le ronflement d'air chaud. Les enfants avaient posé les mains sur leurs cuisses. Un âne comme Cadichon, c'est un âne à part. Bah, tous les ânes se ressemblent et ont beau faire, ils ne sont jamais que des ânes. Ils entraient petit à petit dans la chose du papier, ce miracle, cet entre-deux. Il y a âne et âne. Certaines tournures leur semblaient drôles. Ils riaient sans retenue. Esther ne s'arrêtait plus de lire pendant près d'une heure. Et quand elle finissait, ils s'étiraient, revenant de l'autre monde, plus enveloppant, plus rond, plus chaud que celui dans lequel ils retournaient à peine sortis de la voiture et qui les mordait au visage comme un chien fou. D'ailleurs, Esther ne trouvait pas facilement le courage de s'arrêter de dire « C'est fini pour aujourd'hui » et de rompre en une phrase le charme créé par toutes les autres. « Je commence à devenir vieux, mais les ânes vivent longtemps. » Esther referma le livre. « Voilà, dit-elle, on a fini. Vous m'avez épuisée, je n'ai plus de voix. » Elle regardait les enfants sortis du rêve, engourdis par sa lecture. « Les ânes, en vrai, ça peut pas écrire, » dit Anna. « On sait pas, » dit Michael. Anita dit « Est-ce que ça existe un âne qui pense comme Cadichon ?» Elle attendait d'Esther une réponse. « Les ânes n'écrivent pas, » dit Esther. « Mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. Alors peut-être sont-ils plus malins qu'on ne le croit. » Elle ouvrit la portière. « Je suis en retard, » dit-elle. « Filez vite. » Ils sortirent les uns après les autres en grommelant. Mais lorsque la voiture fut hors de vue, ils étaient à rire et danser. Ils avaient pris deux livres et Esther n'avait rien vu une fois de plus.
Je fus arrêtée par la police et devant moi s'échangea ce dialogue. C'est toi qui as fait le coup de la rue de Flandre? Non, c'est pas moi. C'est toi, la concierge te reconnaît. C'est un type qui a ma gueule. Elle dit qu'il s'appelle Guy. C'est un type qui a ma gueule et mon nom. Elle reconnaît tes fringues. Il a ma gueule, mon nom et mes fringues. C'est les mêmes cheveux. Il a ma gueule, mon nom, mes fringues et mes cheveux. On a relevé tes empreintes. Bah, il a ma gueule, mon nom, mes fringues, mes cheveux et mes empreintes. Ça peut aller loin, hein. Ouais, jusqu'au bout. C'est toi qui as fait le coup. Non, c'est pas moi. S'il a du cœur, le coupable décide d'être celui que le crime a fait de lui. Trouver une justification lui est facile, sinon comment vivrait-il? Il la tire de son orgueil. Il s'enferme dans sa honte par l'orgueil, mot qui désigne la manifestation de la plus audacieuse liberté. À l'intérieur de sa honte, dans sa propre bave, il s'enveloppe. Il tisse une soie qui est son orgueil. Ce vêtement n'est pas naturel. Le coupable l'a tissé pour se protéger et pourpre pour s'embellir. Pas d'orgueil sans culpabilité. Si l'orgueil est la plus audacieuse liberté, si l'orgueil est le manteau merveilleux où se dresse ma culpabilité, tissée d'elle, je veux être coupable. La culpabilité suscite la singularité. Et si le coupable a le cœur dur, il faut le mériter, et mériter de l'avoir commis. Il le hisse sur un socle de solitude. La solitude ne m'est pas donnée, je la gagne. Je suis conduit vers elle par un souci de beauté. J'y veux me définir, délimiter mes contours, sortir de la confusion et m'ordonner. À ta porte, comment t'en sortiras-tu? Avec les mains sur la tête ou sur la détente de ton flingue? Quand la loi rentre par effraction, comment en finiras-tu? Abattu sur le trottoir ou attendant la mort dans le couloir? Bien et ta vie tu la trouves pas mal, mais ton tour viendra sûrement et au paradis. Tu vois, c'est comme pour Yvan, né sous le soleil, son jeu est appelé survie, mais à la fin ils sont venus. Tu sais ce que ça veut dire, pas de pitié? Ils t'attraperont avec ton flingue. Pas besoin de ton foulard noir, hein. Au revoir le soleil. Mais vous pouvez nous détruire et vous pouvez nous meurtrir. Mais vous devrez un jour répondre aux familles, aux autres copains. Frappe à ta porte, comment y arriveras-tu? Avec les mains sur la tête ou sur la détente de ton flingue? Vous pouvez nous détruire, vous pouvez nous meurtrir. Vous devrez juste un jour répondre aux familles et aux autres copains. Sur le trottoir, attendant la mort dans le couloir. Son jeu est appelé survie au paradis.
Scène de ta vie des gens. Scène 1. Le CD est sur la piste cyclable. Jeté, on l'a jeté. J'imagine un couple qui s'engueule à propos de la même musique qui tourne en boucle dans la voiture. Décide de s'en débarrasser, elle ou lui, lui ou elle. Le CD est retourné, on ne voit pas le titre. Dommage. Scène de ta vie des gens. 2. Il, un mec, passe en vélo. Sur son porte-bagages, un porte-veste, enfin je ne sais pas comment appeler ça autrement. La veste est derrière lui, accrochée, cintrée. C'est comme un double de lui-même qu'il trimballe.
Et voilà.
Yeah, yeah, yeah.
Merci d'être resté avec nous.
C'était une émission freestyle.
Complètement
freestyle. Pour la première fois, on était totalement freestyle.
D'habitude, on aime bien tout préparer, savoir préparer, organiser. Et bah là, c'était pas ça.
Chacun avec des tranches de vie, comme ça, dans tous les sens.
Dans tous les sens, mais ça va, ça n'avait quand même pas complètement un certain sens.
Ni que ni tête.
Vous avez pu entendre
Pour ma part, Jean-Claude Kaufmann, quand je est un autre.
autre, donc un sociologue qui cite un poète. Et bah on aime bien cette petite question sur ce qui se passe des uns, des autres, dans leur tête, dans, quand on essaye de se trouver. Et également un extrait de Grâce et dénuement d'Alice Fernet, un bouquin que j'avais trouvé par hasard dans un casier du lycée et que j'avais beaucoup aimé. Et un petit son. Ou non, on y va là pour les petites lectures, on verra les sons plus tard. On verra les sons après. Vas-y, ouais. Greg, t'as lu quoi ?
Moi, j'ai lu un extrait du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire.
Encore.
J'avoue que j'aurais pu lire tout le livre.
C'est un peu ton chouchou en ce moment.
En ce moment, ouais, j'avoue que cette littérature-là. Et donc, je mets en écho avec un extrait d'un texte de Dany Laferrière. Qui s'appelle, le livre s'appelle L'énigme du retour. Et donc voilà, c'est cet écrivain qui retourne voir ses racines en Haïti, qu'il confronte à ce cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc voilà, des pensées turbulentes insulaires. Ensuite, nous avons.
Moi, j'ai lu des extraits de Journal d'un voleur de Jean Genet. Passer la musique de Brigitte Fontaine et d'Ariski pour le patron, moi aussi, et c'était une spéciale dédicace pour Adrien qui m'a fait découvrir ce magnifique morceau. Voilà, il y avait aussi la traduction de Guns of Brixton, des Clash, et voilà, c'est tout.
Brigitte, ça faisait longtemps.
Oui.
C'était une spéciale avant.
Oui. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Et bonsoir Anita.
Alors, j'ai lu un texte de Michel Vinavert que j'ai découvert avec Les Travaux et les Jours sur un son d'épée que j'ai trouvé et de ninja un petit peu. Et puis, vous avez pu entendre aussi sur le son Noise Boys Led by Happiness. Voilà, d'autres textes personnels. On va vous laisser.
Il y a un petit son que j'ai pas cité également, Non for Sale de Sudden Archives.
Ah oui, il y a un morceau de Césaria Évora qui est passé, Petit Pays.
Petit Pays, je t'aime.
Voilà, et ben on s'en retrouve dans
15 jours, 19.
On laisse la place au camion info.
On vous laisse avec une musique sur vinyle, l'Instant X remixé par One T. C'est parti, à bientôt.
through space and time, here and there at the same time, hand dimensions and basic rhyme. You ain't gotta be mad, look deep and go higher when you climb, but stay out of my path, but stay out of my flight path. Never feeling lonely, only gliding, flying, always being constantly reminded. Time is running up, don't waste your luck, sucker. This is my life, don't mix that up. This is my life, don't.